comme la preuve inscrite dans la pierre du choix de Dieu et de ta sainteté. Depuis 25 ans que je viens sur les tombes, à toi je n'ai jamais rien à dire. D'après l'état civil, tu es ma sœur. Tu portes le même patronyme que le mien, mon nom de jeune fille, Duchesne. Dans le livret de famille des parents, presque en lambeaux, à la rubrique naissance et décès des enfants issus du mariage, nous figurons l'une au-dessous de l'autre. Toi, en haut, avec deux tampons de la mairie de Lillebonne, Seine inférieure, moi avec un seul. C'est dans un autre livret officiel que sera remplie pour moi la case décès, celui qui atteste de ma reproduction d'une famille avec un autre nom. Mais tu n'es pas ma sœur, tu ne l'as jamais été. Nous n'avons pas joué, mangé, dormi ensemble. Je ne t'ai jamais touchée, embrassée. Je ne connais pas la couleur de tes yeux. Je ne t'ai jamais vue. Tu es sans corps, sans voix. Juste une image plate sur quelques photos en noir et blanc. Je n'ai pas de mémoire de toi. Tu étais déjà morte depuis 2 ans et demi quand je suis née. Tu es l'enfant du ciel, la petite fille invisible dont on ne parlait jamais, l'absente de toutes les conversations, le secret. Tu as toujours été morte. Tu es entrée morte dans ma vie l'été de mes 10 ans. Née et morte dans un récit, comme Bonnie, la petite fille de Scarlett et de Rhett dans Autant n'emporte le vent. La scène du récit se passe pendant les vacances 1950, le dernier été des grands jeux du matin au soir entre cousines, quelques filles du quartier et des citadines en vacances à Yvetot. On jouait à la marchande, aux grandes personnes, on se fabriquait des maisons dans les nombreuses dépendances de la cour du commerce des parents, avec des casiers à bouteilles, des cartons et des vieux tissus. On chantait chacune son tour, debout sur la balançoire. « Il fait bon chez vous, maître Pierre » et « Ma guépière et mélon jupon » comme au crochet radiophonique. On s'échappait pour cueillir des mûres. Les garçons étaient interdits par les parents sous le prétexte qu'ils préféraient les jeux brutaux. Le soir, on se séparait, sale comme des peignes. Je me lavais les bras et les jambes, heureuse de recommencer le lendemain. L'année d'après, les filles seront toutes dispersées ou fâchées. Je m'ennuierai et je ne ferai que lire. Je voudrais continuer à décrire ces vacances-là, retardées. Faire le récit de ce récit, ce sera en finir avec le flou du vécu, comme entreprendre de développer une pellicule photo conservée dans un placard depuis 60 ans et jamais tirée. C'est un dimanche en fin d'après-midi, au début de la voie étroite qui longe l'arrière de l'épicerie et du café des parents, la rue de l'école, appelée ainsi à cause d'une école maternelle privée qu'il y aurait eu au début du siècle, près du jardinet de roses et de dahlias, protégée par un haut grillage qui court tout le long du mur au-dessus d'un talus de mauvaises herbes. De l'autre côté, une haie épaisse et haute. Depuis un moment indéterminé, ma mère est en grande conversation avec une jeune femme du Havre qui passe les vacances avec sa petite fille de 4 ans chez ses beaux-parents, les S, dont la maison se trouve à une dizaine de mètres plus loin dans la rue de l'école. Sans doute est-elle sortie du magasin, qui ne ferme jamais à cette époque, pour continuer de bavarder avec sa cliente. Je joue près d'elle avec la petite fille, elle s'appelle Mireille, à courir et nous attraper. Je ne sais pas comment j'ai été alertée. Peut-être la voix de ma mère plus basse d'un seul coup. Je me suis mise à l'écouter, comme si je ne respirais plus. Je ne peux pas restituer son récit. Seulement sa teneur et les phrases qui ont traversé toutes les années jusqu'à aujourd'hui se sont propagées en un instant sur toute ma vie d'enfant, comme une flamme muette et sans chaleur. Tandis que je continuais de danser, de tournoyer à côté d'elle, tête baissée pour n'éveiller aucun soupçon. Ici, il me semble que les paroles déchirent une zone crépusculaire, me happent, et c'en est fini. Elle raconte qu'ils ont eu...